Jules Verne, une fantaisie du docteur Oix. Chapitre 10, dans lequel on verra que l'épidémie envahit la ville entière et quel effet elle produisit. Pendant les mois qui suivirent, le mal, au lieu de se dissiper, ne fit que s'étendre. Des maisons particulières, l'épidémie se répandit dans les rues. La ville de Quiquendone n'était plus reconnaissable. Phénomène plus extraordinaire encore que ce qui avait été remarqué jusqu'alors, non seulement le règne animal, mais le règne végétal lui-même n'échappait point à cette influence. Suivant le cours ordinaire des choses, les épidémies sont spéciales. Celle qui frappe l'homme épargne les animaux, celle qui frappe les animaux épargne les végétaux. On n'a jamais vu un cheval attaqué de la variole, ni un homme de la peste bovine, et les moutons n'attrapent pas la maladie des pommes de terre. Mais ici, toutes les lois de la nature semblaient bouleversées. Non seulement le caractère, le tempérament, les idées des habitants et habitantes de Quiquendone s'étaient modifiées, mais les animaux domestiques, chiens ou chats, bœufs ou chevaux, ânes ou chèvres, subissaient cette influence épidémique comme si leur milieu habituel eût été changé. Les plantes elles-mêmes s'émancipaient, si l'on veut bien nous pardonner cette expression. En effet, dans les jardins, dans les potagers, dans les vergers, se manifestaient des symptômes extrêmement curieux. Les plantes grimpantes grimpaient avec plus d'audace. Les plantes touffantes touffaient avec plus de vigueur. Les arbustes devenaient des arbres. Les graines à peine semées montraient leur petite tête verte et dans le même laps de temps elles gagnaient en pouce, ce que jadis et dans les circonstances les plus favorables, elles gagnaient en ligne. Les asperges atteignaient 2 pieds de hauteur. Les artichauts devenaient gros comme des melons. Les melons gros comme des citrouilles. Les citrouilles grosses comme des potirons. Les potirons gros comme la cloche du beffroi qui mesurait, ma foi, 9 pieds de diamètre. Les choux étaient des buissons et les champignons des parapluies. Les fruits ne tardèrent pas à suivre l'exemple des légumes. Il fallut se mettre à 2 pour manger une fraise et à 4 pour manger une poire. Les grappes de raisin égalaient cette grappe phénoménale si admirablement peinte par le Poussin dans son retour des envoyés à la terre promise. De même pour les fleurs. Les larges violettes répandaient dans l'air des parfums plus pénétrants. Les roses exagérées resplendissaient de couleurs plus vives. Les lilas formaient en quelques jours d'impénétrables taillis. Géranium, marguerite, dahlia, camélia, rhododendron envahissant les allées s'étouffaient les uns les autres. La serpe n'y pouvait suffire. Et les tulipes, ces chères liliacées qui font la joie des flamands, quelles émotions elles causèrent aux amateurs. Le digne Van Bistrom faillit un jour tomber à la renverse en voyant dans son jardin une simple tulipa gesneriana, énorme, monstrueuse, géante, dont le calice servait de nid à toute une famille de rouges-gorges. La ville entière accourut pour voir cette fleur phénoménale et lui décerna le nom de tulipa quiquendonia. Mais, hélas, si ces plantes, si ces fruits, si ces fleurs poussaient à vue d'œil, si tous les végétaux affectaient de prendre des proportions colossales, si la vivacité de leurs couleurs et de leurs parfums enivrait l'odorat et le regard, en revanche, ils se flétrissaient vite. Cet air qu'ils absorbaient les brûlait rapidement et ils mouraient bientôt, épuisés, flétris, dévorés. Tel fut le sort de la fameuse tulipe qui s'étiola après quelques jours de splendeur. Il en fut bientôt de même des animaux domestiques, depuis le chien de la maison jusqu'au porc de l'étable, depuis le serin de la cage jusqu'au dindon de la basse-cour. Il convient de dire que ces animaux, en temps ordinaire, étaient non moins flegmatiques que leurs maîtres. Chiens et chats végétaient plutôt qu'ils ne vivaient. Jamais un frémissement de plaisir, jamais un mouvement de colère. Les queues ne remuaient pas plus que si elles eussent été de bronze. On ne citait, depuis un temps immémorial, ni un coup de dent, ni un coup de griffe. Quant aux chiens enragés, on les regardait comme des bêtes imaginaires. arrangé avec les griffons et autres dans la ménagerie de l'Apocalypse. Mais pendant ces quelques mois dont nous cherchons à reproduire les moindres incidents, quel changement! Chiens et chats commencèrent à montrer les dents et les griffes. Il y eut quelques exécutions à la suite d'attaques réitérées. On vit, pour la première fois, un cheval prendre le mort aux dents et s'emporter dans les rues de Quiquendone, un bœuf se précipiter, corne baissée, sur un de ses congénères, un âne se renverser, les jambes en l'air, sur la place Saint-Ernulf et pousser des braiements qui n'avaient plus rien d'animal. Un mouton lui-même, défendre vaillamment contre le couteau du boucher les côtelettes qu'il portait en lui. Le bourgmestre Ventricasse fut contraint de rendre des arrêtés de police concernant les animaux domestiques qui, pris de folie, rendaient peu sûrs les rues de Quiquendone. Mais, hélas, si les animaux étaient fous, les hommes n'étaient plus sages, aucun âge ne fut épargné par le fléau. Les bébés devinrent très promptement insupportables, eux jusque-là si faciles à élever, et pour la première fois, le grand juge Honoré Syntaxe dut appliquer le fouet à sa jeune progéniture. Au collège, il y eut comme une émeute, et les dictionnaires tracèrent de déplorables trajectoires dans les classes. On ne pouvait plus tenir les élèves renfermés, et d'ailleurs la surexcitation gagnait jusqu'aux professeurs eux-mêmes, qui les accablaient de pinsommes extravagants. Autre phénomène, tous ces Quiquendoniens, si sobres jusqu'alors, et qui faisaient des crèmes fouettées leur alimentation principale, commettaient de véritables excès de nourriture et de boissons. Leur régime ordinaire ne suffisait plus. Chaque estomac se transformait en gouffre, et ce gouffre, il fallait bien le combler par les moyens les plus énergiques. La consommation de la ville fut triplée. Au lieu de 2 repas, on en faisait 6. On signala de nombreuses indigestions. Le conseiller Niklos ne pouvait assouvir sa faim. Le bourgmestre Ventricasse ne pouvait combler sa soif et il ne sortait plus d'une sorte de demi-ébriété rageuse. Enfin, les symptômes les plus alarmants se manifestèrent et se multiplièrent de jour en jour. On rencontra des gens ivres et parmi ces gens ivres, souvent des notables. Les gastralgies donnèrent une occupation énorme au médecin Dominique Custos, ainsi que les névrites et les névrophlogoses, ce qui prouvait bien à quel degré d'irritabilité étaient étrangement montés les nerfs de la population. Il y eut des querelles, des altercations quotidiennes dans les rues autrefois si désertes de Quiquendone, aujourd'hui si fréquentées, car personne ne pouvait plus rester chez soi. Il fallut créer une police nouvelle pour contenir les perturbateurs de l'ordre public. Un violon fut installé dans la maison commune et il se peupla jour et nuit de récalcitrants. Le commissaire Passoff était sur les dents. Un mariage fut conclu en moins de 2 mois, ce qui ne s'était jamais vu. Oui, le fils du percepteur Roupe épousa la fille de la belle Augustine de Rovert et cela 57 jours seulement après avoir fait la demande de sa main. D'autres mariages furent décidés qui, en d'autres temps, fussent restés à l'état de projet pendant des années entières. Le bourgmestre n'en revenait pas et il sentait sa fille, la charmante Suzelle, lui échapper des mains. Quant à la chère Tatanémance, elle avait osé pressentir le commissaire Passoff au sujet d'une union qui lui semblait réunir tous les éléments de bonheur, fortune, honorabilité, jeunesse. Enfin, pour comble d'abomination, un duel eut lieu. Oui, un duel au pistolet d'Arçon, à 75 pas à balles libres. Et entre qui? Nos lecteurs ne voudront pas le croire. Entre M. Franz Niklos, le doux pêcheur à la ligne, et le fils de l'opulent banquier, le jeune Simon Kolaer. Et la cause de ce duel, c'était la propre fille du bourgmestre, pour laquelle Simon se sentait féru d'amour et qu'il ne voulait pas céder aux prétentions d'un audacieux rival. Chapitre 11, où les Quiquendoniens prennent une résolution héroïque. « on voit dans quel état déplorable se trouvait la population de Quiquendone. Les têtes fermentées, on ne se connaissait et on ne se reconnaissait plus. Les gens les plus pacifiques étaient devenus querelleurs. Il ne fallait pas les regarder de travers, ils eussent vite fait de vous envoyer des témoins. Quelques-uns laissèrent pousser leurs moustaches et certains, des plus batailleurs, les relevèrent en croc. Dans ces conditions, l'administration de la cité, le maintien de l'ordre dans les rues et dans les édifices publics, devenait fort difficile, car les services n'avaient point été organisés pour un tel état de choses. Le bourgmestre, ce digne ventricasse, que nous avons connu si doux, si éteint, si incapable de prendre une décision quelconque, le bourgmestre ne décolérait plus. Sa maison retentissait des éclats de sa voix. Il rendait 20 arrêtés par jour, gourmandant ses agents et prêt à faire exécuter lui-même les actes de son administration. Ah, quel changement ! Aimable et tranquille maison du bourgmestre, bonne habitation flamande, où était son calme d'autrefois ? Quelle scène de ménage s'y succédait maintenant ! Madame Ventricasse était devenue acariâtre, quinteuse, gourmandeuse. Son mari parvenait peut-être à couvrir sa voix en criant plus haut qu'elle, mais non à la faire taire. L'humeur irascible de cette brave dame s'en prenait à tout. Rien n'allait. Le service ne se faisait pas. Des retards pour toute chose. Elle accusait Loche et même Tatane Mance, sa belle-sœur, qui, de non moins mauvaise humeur, lui répondait aigrement. Naturellement, M. Ventricasse soutenait sa domestique Loche, ainsi que cela se voit dans les meilleurs ménages. De là, exaspération permanente de Mme la bourgmestre, objurgation, discussion, disputes, scènes qui n'en finissaient plus. « Mais qu'est-ce que nous avons ? » s'écriait le malheureux bourgmestre. « Mais quel est ce feu qui nous dévore ? Mais nous sommes donc possédés du diable ? Ah, Madame Ventricasse, vous finirez par me faire mourir avant vous et manquer ainsi à toutes les traditions de la famille. » Car le lecteur ne peut avoir oublié cette particularité assez bizarre, que M. Ventricasse devait devenir veuve et se remarier pour ne point rompre la chaîne des convenances. Cependant, cette disposition des esprits produisit encore d'autres effets assez curieux et qu'il importe de signaler. Cette surexcitation, dont la cause nous échappe jusqu'ici, amena des régénérescences physiologiques auxquelles on ne se serait pas attendu. Des talents qui seraient restés ignorés sortirent de la foule. Des aptitudes se révélèrent. Des artistes, jusque-là médiocres, se montrèrent sous un jour nouveau. Des hommes apparurent dans la politique aussi bien que dans les lettres. Des orateurs se formèrent aux discussions les plus ardues et sur toutes les questions, ils enflammèrent un auditoire parfaitement disposé d'ailleurs à l'inflammation. Des séances du conseil, le mouvement passa dans les réunions publiques et un club se fonda à Quiquendone. Pendant que 20 journaux, le Guetteur de Quiquendone, l'Impartial de Quiquendone, le Radical de Quiquendone, l'Outrancier de Quiquendone, écrit avec rage, soulevait les questions sociales les plus graves. Mais à quel propos, se demandera-t-on ? À propos de tout et de rien ? À propos de la tour de Lenarde qui penchait, que les uns voulaient abattre et que les autres voulaient redresser ? À propos des arrêtés de police que rendait le Conseil, auxquels de mauvaises têtes tentaient de résister ? À propos du balayage des ruisseaux et du curage des égouts, etc. Et encore, si les fougueux orateurs ne s'en étaient pris qu'à l'administration intérieure de la cité, mais non, emportés par le courant, ils devaient aller au-delà, et si la Providence n'intervenait pas, entraîner, pousser, précipiter leurs semblables dans les hasards de la guerre. En effet, depuis 800 ou 900 ans, Quiquendone avait dans son sac un casus belli de la plus belle qualité, mais elle le gardait précieusement comme une relique et il semblait avoir quelque chance de s'éventer et de ne plus pouvoir servir. Voici à quel propos s'était produit ce casus belli. On ne sait généralement pas que Quiquendone est voisine, en ce bon coin de la Flandre, de la petite ville de Virgamen. Les territoires de ces deux communes confinent l'un à l'autre. Or, en 1185, quelque temps avant le départ du comte Baudouin pour la croisade, une vache de Virgamen, non point la vache d'un habitant, mais bien une vache communale, qu'on y fasse bien attention, vint pâturer sur le territoire de Quiquendone. C'est à peine si cette malheureuse ruminante tondit du pré trois fois la largeur de sa langue, Mais le délit, l'abus, le crime, comme on voudra, fut commis et dûment constaté par procès-verbal du temps, car à cette époque, les magistrats commençaient à savoir écrire. « Nous nous vengerons quand le moment en sera venu », dit simplement Natalis Ventricas, le 32e prédécesseur du bourgmestre actuel. « Et les Virgamenois ne perdront rien pour attendre. » Les Virgamenois étaient prévenus. Ils attendirent, pensant, non sans raison, que le souvenir de l'injure s'affaiblirait avec le temps. Et en effet, pendant plusieurs siècles, ils vécurent en bons termes avec leurs semblables de Quiquendone. Mais ils comptaient sans leurs hôtes, ou plutôt sans cette épidémie étrange qui, changeant radicalement le caractère de leurs voisins, réveilla dans ses cœurs la vengeance endormie. Ce fut au club de la rue Monstrelet que le bouillant avocat Schout, jetant brusquement la question à la face de ses auditeurs, les passionna en employant les expressions et les métaphores qui sont d'usage en ces circonstances. Il rappela le délit. Il rappela le tort commis à la commune de Quiquendone, et pour lequel une nation, jalouse de ses droits, ne pouvait admettre de prescription. Il montra l'injure toujours vivante, la plaie toujours saignante. Il parla de certains hochements de tête particuliers aux habitants de Virgamène, et qui indiquaient en quel mépris il tenait les habitants de Quiquendone. Il supplia ses compatriotes qui, inconsciemment peut-être, avait supporté pendant de longs siècles cette mortelle injure. Il adjura les enfants de la vieille cité de ne plus avoir d'autre objectif que d'obtenir une réparation éclatante. Enfin, il fit appel à toutes les forces vives de la nation. Avec quel enthousiasme ces paroles, si nouvelles pour des oreilles quiquendoniennes, furent accueillies, cela se sent, mais ne peut se dire. Tous les auditeurs s'étaient levés et les bras tendus. Ils demandaient la guerre à grands cris. Jamais l'avocat Schout n'avait eu un tel succès, et il faut avouer qu'il avait été très beau. Le bourgmestre, le conseiller, tous les notables qui assistaient à cette mémorable séance auraient inutilement voulu résister à l'élan populaire. D'ailleurs, ils n'en avaient aucune envie, et sinon plus, du moins aussi haut que les autres, ils criaient « À la frontière ! À la frontière !» Or, comme la frontière n'était qu'à 3 kilomètres des murs de Quiquendone, il est certain que les Virgamenois couraient un véritable danger, car ils pouvaient être envahis avant d'avoir eu le temps de se reconnaître. Cependant, l'honorable pharmacien José Liefrink, qui avait seul conservé son bon sens dans cette grave circonstance, voulut faire comprendre que l'on manquait de fusils, de canons et de généraux. Il lui fut répondu, non sans quelques orions, que ces généraux, ces canons, ces fusils, on les improviserait, que le bon droit et l'amour du pays suffisaient et rendaient un peuple irrésistible. Là-dessus, le bourgmestre prit lui-même la parole et, dans une improvisation sublime, il fit justice de ces gens pusillanimes qui déguisent la peur sous le voile de la prudence et ce voile, il le déchira d'une main patriote. On aurait pu croire à ce moment que la salle allait crouler sous les applaudissements. On demanda le vote. Le vote se fit par acclamation et les cris redoublèrent. « À Virgamène ! À Virgamène !» Le bourgmestre s'engagea alors à mettre les armées en mouvement et au nom de la cité, il promit à celui de ses futurs généraux qui reviendraient vainqueurs les honneurs du triomphe comme cela se pratiquait au temps des Romains. Cependant, le pharmacien José Liefrink, qui était un entêté et qui ne se tenait pas pour battu, bien qu'il l'eût été réellement, voulut encore placer une observation. Il fit remarquer qu'à Rome, le triomphe ne s'accordait aux généraux vainqueurs que lorsqu'ils avaient tué 5000 hommes à l'ennemi. « Eh bien, eh bien !» s'écria l'assistance en délire. Et que la population de la commune de Virgamène, ne s'élevant qu'à 3575 habitants, il serait difficile, à moins de tuer plusieurs fois la même personne. Mais on ne laissa pas achever le malheureux logicien, et tout contu, tout moulu, il fut jeté à la porte. « Citoyen, dit alors Sylvestre Pulmacher, qui vendait communément des épices au détail. « Citoyen, quoi qu'en ait dit ce lâche apothicaire, je m'engage, moi, à tuer 5000 Virgamenois, si vous voulez accepter mes services. »« 5500 !» cria un patriote plus résolu. « 6500 !» reprit l'épicier. « 7000 !» s'écria le confiseur de la rue Hamling, Jean Orbidec, qui était en train de faire sa fortune dans les crèmes fouettées. « Adjugé !» s'écria le bourgmestre Ventricas en voyant que personne ne mettait de surenchère. Et voilà comment, le confiseur Jean Orbidec devint général en chef des troupes de Quiquendone. Chapitre 12, dans lequel le préparateur Hygène émet un avis raisonnable qui est repoussé avec vivacité par le docteur Oix. Eh bien, maître, disait le lendemain le préparateur Hygène en versant des seaux d'acide sulfurique dans l'auge de ses énormes piles. Eh bien, reprit le docteur Oix, n'avais-je pas raison ? Voyez à quoi tiennent non seulement les développements physiques de toute une nation, mais sa moralité, sa dignité, ses talents, son sens politique. Ce n'est qu'une question de molécules. Sans doute, mais, ne trouvez-vous pas que les choses sont allées assez loin et qu'il ne faudrait pas surexciter ces pauvres diables outre mesure ? Non, non, s'écria le docteur, non, j'irai jusqu'au bout. Comme vous voudrez, maître. Toutefois, l'expérience me paraît concluante et je pense qu'il serait temps de fermer le robinet. Par exemple, s'écria le docteur Oix, avisez-vous-en et je vous étrangle.